parler de la parole de Dieu. Cette parole, vous le savez, hein, je ne vous l'apprends pas, est une parole qui nous inspire, une parole qui nous encourage, une parole qui est là et qui nous exhorte à marcher sur le bon chemin, une parole qui vient pour nous enseigner aussi l'attitude que nous devons adopter pour être en mesure de plaire à Dieu, pour pouvoir vivre sur cette terre à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Et ça, je crois vraiment que c'est quelque chose que nous avons tous dans nos cœurs. La Bible, elle nous dévoile les qualités qui doivent régner dans le cœur des vrais disciples de Christ. Et je dirais que parmi les nombreuses qualités qu'il doit y avoir dans nos cœurs, que Dieu s'attend à retrouver dans nos cœurs, disons-le plutôt comme ça, eh bien, celle d'un véritable adorateur en fait partie. Vous savez, lorsque la parole de Dieu nous parle d'adoration, elle ne nous parle pas de simples prières que nous faisons à Dieu. Bien sûr que ces prières-là font partie de l'adoration, mais l'adoration à notre Dieu va bien plus loin que cela. Adorer Dieu, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que le simple fait d'assister aux réunions de prière. Adorer Dieu va beaucoup plus loin que le simple fait de chanter quelques cantiques ou d'entendre la prédication de la parole de Dieu. Non, adorer Dieu, c'est une communion intime, une communion qui est directe avec celui que nous pouvons appeler Père. Une communion que nous devons tous vivre chaque jour de notre vie. Une communion qui doit impérativement se refléter dans notre comportement aussi, mes frères et sœurs. Parce que, oui, nous adorons Dieu par notre manière de vivre également. Nous adorons Dieu aussi par le témoignage que nous avons, pas seulement par ce que nous disons. Et c'est pour cela que le véritable adorateur est celui qui comprend l'importance vitale qu'il y a d'avoir une communion véritable avec Dieu. Le vrai adorateur est celui qui comprend la nécessité qu'il y a de faire de son Créateur sa passion. Et je dirais même sa priorité dans sa vie. Aujourd'hui, prioriser Dieu dans notre vie devient compliqué pour beaucoup. Et pour autant, la Bible le dit et à de nombreuses reprises. Rappelez-vous, quel est le plus grand commandement, hein ? Il dit quoi ? Il dit que notre Dieu doit être dans notre cœur la priorité. Dans nos pensées, la priorité. Et cela, nous devons le faire de toutes nos forces, elle nous dit, la parole de Dieu. Et à ce moment-là, nous pourrons nous appeler adorateurs. Mes frères et sœurs, Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu cherche des adorateurs et ce n'est pas tout à fait la même chose. Dieu cherche de véritables adorateurs, il ne cherche pas des prieurs. Parce que le prieur, celui qui se contente seulement de prier par habitude, eh bien il va être capable, c'est vrai, de dire certaines paroles qui vont être jolies à entendre, des beaux versets peut-être qui seront cités, mais son cœur sera vide et sa prière ne sera que le fruit de ses lèvres. Alors que l'adorateur, lui, c'est un homme ou c'est une femme, bien sûr, qui va s'exprimer avec des choses qui viennent de la profondeur de son cœur. Et ça, ça change tout pour Dieu. Je ne dis pas simplement de belles paroles, mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Et si mon cœur aime Dieu, alors mes paroles aimeront le Seigneur. Mes frères et sœurs, il y a ceux qui prient parce qu'il faut le faire. Et il y a ceux qui se plaisent à passer du temps aux côtés de Dieu. Il y a ceux qui se plaisent à vivre à l'image de Dieu. Et la différence qu'il y a entre ces deux manières de vivre notre relation personnelle avec l'Éternel se trouve dans le cœur de celui qui veut communiquer avec le Tout-Puissant. Voilà pourquoi ce matin nous allons parler de ce sujet très important que Dieu a placé sur mon cœur et nous allons prendre un verset que tout le monde connaît. C'est un verset qui est dans un passage que nous utilisons souvent en évangélisation, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il est grand ce passage dans la compréhension que nous pouvons en avoir. Il se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et on va lire à partir du verset 20 à 24. Évangile de Jean, chapitre 4, versets 20 à 24, il nous servira de texte de référence. Jean 4. Nous retrouvons donc une conversation que Jésus va entretenir avec une femme samaritaine. Et cette femme va parler à Jésus à partir du verset 20 et elle va dire, Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est pendant sa conversation avec la femme samaritaine que Jésus va aborder le thème de l'adoration, et je dirais même qu'il va en faire ressortir toute la profondeur de ce qu'est véritablement l'adoration. Et à travers ce texte que nous venons de lire, nous pouvons voir que Jésus ne parle pas de l'adoration comme d'une simple action de notre part, non. Il n'en parle pas non plus comme une activité quelconque, mais il parle de l'adoration comme une chose qui découle directement de notre cœur. Écoutez, nous devons absolument comprendre l'importance et la place que doit avoir l'adoration dans notre vie chrétienne, puisque notre manière d'adorer Dieu est directement liée à l'adoration, ou plutôt je dirais à la relation que nous avons avec lui. Si notre relation est profonde avec notre Seigneur, eh bien nous adorerons le Seigneur d'une manière profonde. Si nous vivons et nous marchons avec Dieu de manière légère, si notre relation est légère avec Dieu, je vous assure que nous ne serons pas en mesure de l'adorer comme il se doit. Et c'est la raison pour laquelle la première chose que nous voyons dans les Écritures, c'est que l'adorateur est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu, et un amour profond pour sa personne. L'amour pour Dieu est important. Mais bien sûr, c'est important de venir se faire baptiser. Mais on est en plein dans des cours au baptême. Et la première chose que je dis, se faire baptiser pour être baptisé, cela ne sert à rien. Venir plonger dans les eaux, là, du baptême, au milieu de l'église, si votre cœur n'y est pas réellement, cela ne sert à rien. Ce n'est pas l'eau dans laquelle nous sommes plongés, qui nous sauve. Mais c'est la foi que nous avons placée ou voulu placer en Jésus. Et cette foi-là nous amène à comprendre qui est Dieu, mais elle nous amène aussi à comprendre son amour, ou du moins, à comprendre son amour, c'est grand, mais à essayer d'imaginer quel peut être l'amour de Dieu, et en retour à se dire, Seigneur, ah là là, cet amour que tu as eu pour moi, ces choses incroyables que tu as fait pour moi, pour ma vie, tu m'as sauvé. Et ça, c'est la plus grande des choses. Maintenant, moi, mon Dieu, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, de tout mon être. En fait, je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux être un parfum doux et agréable. Et là, lorsque mon cœur pense de cette façon-là, alors, effectivement, je peux adorer le Seigneur de la bonne manière. C'est aussi simple que ça, et je sais très bien que vous le savez. Mais c'est important d'avoir un amour profond pour lui. C'est la priorité. Prenons un exemple. Tiens, le roi David. Le roi David, c'est celui dont la Bible dit « l'homme qui avait un cœur selon Dieu ». C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais moi, j'aime bien aussi le décrire comme étant un homme qui avait un cœur pour Dieu. David, son cœur, eh bien, il faisait dans son cœur, il faisait passer Dieu avant toute chose. Et c'est une description qui est incroyable, on le voit lorsqu'il écrit les psaumes, on le voit lorsqu'il vit. Mais bien sûr, David a fait des erreurs. Mais regardez comment est-ce qu'il réagit. Son amour pour Dieu va au-delà de tout ce qu'il a, au-delà de ce qu'il possède, au-delà de ses richesses, au-delà même de la royauté qu'il pouvait avoir. David était quelqu'un qui avait un réel amour pour l'Éternel. Il était un véritable adorateur. C'était quelqu'un qui était disponible pour Dieu. Il était disposé pour son Créateur. Tel était le cœur de David. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, nous pouvons le voir, lorsqu'il écrit ses psaumes, il commence ses dialogues, souvent d'une manière particulière. Il commence par montrer à Dieu quel est l'amour sincère qu'il a pour lui. Prenons par exemple le psaume 18, ce psaume-là. Lorsque vous le lirez, il commence et il nous fait remarquer. David, il va écrire et il dit « Je t'aime, ô Éternel ». Voilà comment est-ce que David va commencer son psaume. Oui, Seigneur, moi, je vais parler avec toi, je vais m'exprimer, mais je veux commencer par te dire à quel point je t'aime, toi qui es l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'Éternel. Tu es le roi des rois. Tu es celui qui me sauve, celui qui me protège, celui qui me garde, celui sur qui je peux compter. Tu es mon appui, tu es mon bouclier, tu es mon roc. Toi, ô Éternel, oui, moi, je t'aime. Et ça, c'est incroyable de voir ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Et à travers ce psaume, eh bien moi je vois David nous montrer que la première raison qui le pousse à adorer Dieu, eh bien c'est son amour pour lui, et tout simplement son amour pour lui. Écoutez mes frères et sœurs, si notre adoration ne découle pas de l'amour que nous avons de Dieu, ou pour Dieu plutôt, alors tout ce que nous allons dire ou faire, ne sera rien de plus qu'une simple attitude religieuse qui sera complètement dénuée de sens et qui ne plaira pas à notre Seigneur, je vous l'assure. Parce que Dieu n'attend pas que l'on fasse quelque chose pour être. Non, non, il veut que nous reflétions ce que nous sommes en réalité dans notre cœur. Faire pour faire ne sert à rien. Et je crois que vous connaissez tous ce que Jacques va expliquer. Il aborde un petit peu ce sujet, non pas de l'adoration, mais le faire pour faire, cela ne sert à rien. Il l'aborde dans le sujet délicat qu'il va écrire sur la foi et sur les œuvres. Tout le monde en a entendu parler. Et il dit, mais que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres qui accompagnent cette foi? Et c'est une réflexion qui est tout à fait juste, parce que là, Jacques nous démontre que les œuvres découlent, ou plutôt devraient découler de notre foi. Et c'est exactement ce qu'un vrai disciple est capable de faire. Il fait parce qu'il est, mais il ne fait pas les choses pour être quelqu'un. C'est tout ce qui fait la différence entre un vrai disciple et quelqu'un qui se dit connaître, ou plutôt qui croit que Jésus a vraiment existé. Vous savez, il y a une différence entre savoir que Jésus est mort sur la croix et le vivre. Moi, je le crois. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on va dans la rue évangéliser, vous avez peut-être eu le cas de le voir, vont dire, ah ben moi, le Seigneur, moi je le connais, moi je suis chrétien. Tout le monde est chrétien. Mais lorsqu'on commence à rentrer dans, tu connais le Seigneur, qui est-il? Décris-moi, qu'est-ce qu'il est pour toi? Alors là, il n'y a plus personne. On en arrive même parfois à entendre que la parole de Dieu n'est pas vraiment la parole de Dieu. Si, Dieu veille sur sa parole. On a fait une expo Bible cette semaine. Et il y avait dans cette expo Bible une Bible. Cette Bible était dans un endroit, elle était dans un lieu où la parole de Dieu se faisait rare. Et il y avait une église. Et dans cette église, il y avait plusieurs Bibles. Eh bien, l'église a été brûlée. Et lorsque l'église a brûlé, au milieu des décombres, ils ont retrouvé une seule Bible. La couverture était un petit peu abîmée par le feu, mais l'intérieur était intact. Dieu veille sur sa parole. Dieu est capable de créer l'univers, mais bien sûr qu'il est capable de créer sur chacun des textes qu'il veut y faire figurer à l'intérieur. Ou alors il n'est pas Dieu. Mais moi je crois que Dieu est tout puissant et il est capable de le faire. Et nous avons besoin de croire en cela. Nous avons besoin de vivre le fait que celui que nous adorons est le tout puissant. Il maîtrise tout. Mais c'est aussi celui que nous devons aimer par-dessus tout. Et l'adoration, c'est un peu la même chose que la foi et les œuvres. Ce que Dieu recherche, c'est ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et croyez-moi si je vous dis qu'il s'attend à y trouver des sentiments qui soient parfaitement vrais. Et dans notre cas, eh bien, seul un disciple qui a un amour véritable, on va dire, pour le Seigneur, seul un disciple qui a un cœur qui est régénéré, seulement celui-là sera en mesure d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il ne le fera pas pour le faire. Il n'est pas là pour suivre un mouvement. Il n'est même pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Non, son adoration sera simplement le fruit de l'amour qu'il a pour ce Dieu qu'il connaît et ce Dieu qui règne parfaitement au fond de son cœur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Jésus n'a pas dit que Dieu cherche des adorateurs. Il dit, le Père cherche des adorateurs. Vous allez me dire, oui, mais c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. C'est un détail qui est assez important parce que il nous confirme là, en disant le Père cherche, il nous confirme que la véritable adoration ne peut naître qu'à partir d'une profonde relation intime avec Dieu. Oui, il est mon Père céleste. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas mon papa non plus, hein. Ce n'est pas mon copain, il est mon Père céleste. Il est celui qui veille aussi sur ma vie. En fait, cela implique une relation, une relation. Il faut que nous comprenions, que nous sachions que nous ne sommes que, ou je dirais, c'est déjà même énorme, ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu et nous voulons l'aimer et l'adorer comme il se doit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12, il est écrit quelque chose d'important. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Et je dirais que c'est seulement par la nouvelle naissance que cette relation-là est rendue possible, vous le savez. Et Jésus, c'est aussi ce qu'il va expliquer à Nicodème. Nicodème, il vient le voir là, dans la nuit, il ne comprend pas grand-chose à ce que Jésus lui dit. Et pourtant, c'est un érudit, hein, lui. Alors attention, il lisait le Tanakh, il savait ce que c'était. Et pour autant, Jésus lui parle, il a du mal à comprendre. Mais Jésus lui dit, ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà pourquoi ceux que Jésus considère comme de vrais adorateurs sont forcément des hommes et des femmes qui ont eu leur cœur régénéré en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur, oui, mais ça c'est la première étape, mais aussi comme leur Seigneur. Oui, Jésus n'est pas que notre sauveur, Jésus est aussi notre Seigneur et nous lui devons le respect et l'adoration qui lui est due. Parfois, on a tendance à oublier ça, surtout aujourd'hui. Hein. Je trouve que les temps modernes font que le respect pour le Seigneur, il a la tendance à s'évaporer, on veut vivre les choses à notre manière. Non, nous avons affaire à un Dieu tout-puissant. Et je crois personnellement qu'il faut honorer Dieu et le respecter. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est pas avoir peur de lui, vous le savez, le pasteur a dû vous l'enseigner. La crainte de Dieu, c'est une crainte respectueuse. On ne fait pas n'importe quoi, pas parce qu'on a peur de Dieu, mais parce qu'on le respecte. Il est notre Père céleste. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que Jésus dévoile à la Samaritaine. Il dit quelque chose d'important à la Samaritaine quand même. Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Alors oui, les Samaritains, ils adoraient Dieu, nous le savons, mais leur adoration, elle ne pouvait pas être agréable à Dieu parce que ils ne connaissaient pas réellement le Seigneur Tout-Puissant. En fait, l'adoration qu'avaient les Samaritains à l'époque n'était qu'un rituel religieux, quelque chose qu'ils avaient l'habitude de pratiquer. Ils voulaient perpétuer les coutumes de leurs ancêtres et c'était là que le bât blesse. C'est à ce moment-là qu'il y avait un problème. Et malheureusement, aujourd'hui, je pourrais dire, et je me permets de le dire, qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui se disent adorer Dieu, mais qui ne le connaissent pas véritablement comme ils devraient le connaître. L'adoration de ces chrétiens, eh bien, se concentre sur un lieu. Ils viennent dans une église. Elle va se concentrer sur une méthode. Comment est-ce que l'église se déroule? Et elle va se concentrer peut-être même sur des enseignements, des choses qu'ils ont apprises, parfois même depuis qu'ils sont petits, mais pas sur une véritable relation sincère et puissante et profonde avec celui qu'ils disent être leur Seigneur. J'avais fait une prédication une fois où Dieu m'avait mis à cœur et me disait « Pourquoi est-ce que les gens ne croient plus ou s'en vont de l'Église ?» Et en réalité, c'était parce que déjà dans leur cœur, il leur manquait une notion de Dieu. Ce sont des gens qui ont entendu parler de Dieu, qui ont peut-être assisté même à certains miracles, mais qui n'ont pas vécu l'œuvre de Dieu dans leur cœur. Des gens qui ne connaissent pas réellement Jésus. Et pour un temps, ou dès qu'il y a quelque chose qui ne leur convient pas, eh bien ces personnes peuvent arriver malheureusement à quitter nos églises. Il y a cette parabole que vous connaissez tous de la semence. Ne croyez pas que parce qu'on est dans l'église, on n'a pas besoin, elle ne s'applique pas à nous aussi. Je vous assure que dans l'église, nos jeunes enfants peuvent y être et ne pas recevoir la semence dans la bonne terre. Et à ce moment-là, à la moindre épreuve, eh bien, ils peuvent aussi laisser la main de Dieu. Il est important d'apprendre à nous-mêmes en premier, mais aussi à nos enfants, comment connaître Dieu. Ils doivent arriver à avoir une relation puissante et vivante avec lui. Ce n'est pas à travers nous qu'ils doivent vivre le christianisme, si on peut dire cela comme ça, cette vie avec Dieu. Non, c'est eux-mêmes qui doivent la vivre. Et nous sommes là pour les encourager, pour les aider. Il faut parler avec eux, il faut leur demander quelles sont les expériences qu'ils ont faites. Mais attention, nous devons aussi nous comporter nous-mêmes comme de véritables adorateurs. Parce que si notre vie ne correspond pas à ce que nous devrions avoir, si notre manière de marcher, de parler, de penser ne correspond pas à celle du véritable adorateur, comment voulez-vous apprendre à vos enfants à l'adorer correctement? La première chose qu'ils verront, c'est vous, c'est nous. Et ils diront, mais attends, commence par l'adorer toi correctement. Tu me demandes de le connaître, mais toi le connais-tu vraiment? C'est important. Ça ne vous est jamais arrivé de vous faire reprendre des fois par vos enfants et vous disent, ah, attention, le Seigneur, il n'aime pas ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, mon fils qui est là, il me dit, attention, le Seigneur, il ne veut pas qu'on dise ça. C'est vrai, tu as raison. Parfois, on ne fait pas attention. Et nous devrions, nous, au contraire, être très vigilants sur ce point. Mes frères et sœurs, adorer Dieu sans le connaître dans son cœur n'est rien d'autre que ce qu'on appelle de la religiosité, c'est-à-dire une disposition sentimentale à la religion. Et c'est aussi ce que l'apôtre Paul, justement, relève aux Athéniens. Vous savez qu'à un moment donné, il va à Athènes, et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, et à partir du verset 22, nous voyons que l'apôtre Paul va se mettre debout, il est là, au milieu de l'aéropage, et il va dire « Hommes athéniens !» Il s'adresse à eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit « Mais je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. » Ah ben oui, ils adoraient. Attention, hein, ils adoraient. Pour adorer, ils adoraient, parce qu'en plus, ils en adoraient des centaines. Mais il leur dit, mais vous êtes religieux. Il dit, parce que en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ils adoraient tellement qu'ils en arrivaient à faire un dieu inconnu au cas où ils avaient oublié un dieu. C'est terrible. En réalité, ils ne savaient même pas qui était Dieu. Ils savaient qu'un dieu existait, ces gens-là. Mais ils ne savaient pas exactement où, qui. Ce peuple était religieux, oui, c'est vrai. C'était un peuple qui était croyant, qui certainement devait donner des offrandes pour leur Dieu. Aucun problème là-dessus. Mais ils avaient décidé même d'adorer un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. On peut venir à l'église, donner sa dîme et ne pas connaître Dieu. Oui, je vous assure que c'est possible. La preuve, eh bien, Paul nous le montre avec les Athéniens. Mais je vous le demande, moi, ce matin. Comment peut-on véritablement adorer quelqu'un que l'on ne connaît pas? Quel amour peut-on avoir pour quelqu'un dont nous ne savons rien? Comment est-ce possible? Et c'est pour ça que Paul est là, il continue et il dit, ce que vous adorez sans connaître, eh bien, moi, Paul, je viens vous l'annoncer, je sais qui c'est. La vérité, je vous l'amène, je vous la porte. Paul, vous savez, c'était un homme incroyable, il se plaisait à prêcher la croix. Pourquoi? Eh bien parce que la croix, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Le résultat de cet amour de Dieu qui est dévoilé, je dirais, à l'humanité tout entière et nous en faisons partie. La croix, c'est la preuve évidente que Dieu n'a pas hésité un seul instant à envoyer son Fils unique pour être ce sacrifice parfait. Ce sacrifice qui nous permet aujourd'hui d'être rachetés, d'avoir la vie, mes frères et sœurs, quelle joie! Nous avons la vie! Parfois, on a l'impression qu'on ne s'en rappelle plus. Si! Dieu a donné sa vie pour nous. Est-ce que nous ne devrions pas nous aussi donner notre vie pour lui? Mais est-ce que c'est vraiment ce que nous faisons? La question, elle est là. Souvent, je parle à l'église, on est beaucoup sur la foi, sur l'adoration, il y a beaucoup de choses comme ça. Et Dieu me le met en ce moment parce que les temps sont difficiles et je ne sais pas, j'ai dans mon cœur qu'on a besoin d'entendre ces paroles. Moi le premier. Parce que je vous assure que ça me fait du bien à moi avant de vous faire du bien à vous. Et je me dis, mais combien de fois est-ce qu'on se lève le matin et qu'on est réellement conscient en louant, en adorant Dieu, ne serait-ce que pour notre salut? Ou combien de fois on se lève, oh, vite fait, oui, je suis fatigué, je me suis couché tard, je regardais Netflix et maintenant il faut que je me dépêche, vite, 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 vite. Là-bas, le travail, le déjeuner, etc. Et le Seigneur, et l'adoration, et présenter cette journée au Seigneur, ça passe où tout ça? Nous avons besoin de nous rappeler, mes frères et sœurs, du matin au coucher, ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Je vous assure que si cela trotte dans nos têtes régulièrement, ça nous évitera de dire des bêtises, ça nous évitera même de faire des bêtises, et ça nous permettra d'avoir une relation bien plus profonde avec notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes là, c'est vrai. Nous venons, nous prenons la Sainte-Cène, c'est vrai. Mais est-ce que nous avons vraiment conscience, véritablement, de ce que Jésus a fait pour nous? Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et parfois, je dirais, je me permets de dire que parfois les chrétiens jouent avec leur salut. Aujourd'hui, j'entends même que le salut ne se perd pas. C'est faux, hein? C'est faux. Je vous le dis parce que c'est des choses qui reviennent avec les réseaux sociaux, là. Non, c'est faux. Sinon, Paul n'aurait pas dit « travaillez à votre salut ». Non, nous devons faire attention et valoriser la plus grande des choses que Dieu a placées dans notre vie, c'est le salut de notre âme. Je remercie le Seigneur, moi, pour cela, et nous voulons tous le remercier ce matin. Vous savez, la véritable adoration, elle ne peut être qu'une réponse authentique de notre cœur à l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et c'est pour ça que l'adoration de Dieu commence par naître dans nos cœurs après l'avoir connu, justement. Et ensuite, elle va remplir nos pensées et elle va finir par s'exprimer à travers nos paroles et à travers notre manière de vivre sur cette terre. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Aujourd'hui, je crois que les gens oublient, même parmi les chrétiens, j'entends encore souvent parler de race parfois. Quelle grave erreur ! Qui est quoi ici ? Je vais vous dire ce que nous sommes. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, point. Et si vous vous considérez autrement que cela, alors vous ne pourrez pas rentrer au paradis. Nous sommes juste tous ici des citoyens du royaume de Dieu. Il faut arrêter, Paul déjà à l'époque, il se battait avec ce système. Il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, arrêtez! Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Rendez-lui grâce et soyez un comme Jésus disait, je suis un moi avec le Père. C'est tout. L'unité, l'amour, la fraternité. Mes frères et sœurs, nous devons revenir à ces valeurs-là, mais y revenir véritablement. C'est pas chacun chez soi et Dieu pour tous, hein. Non. C'est, on est tous là les uns pour les autres. Oui, nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Et ça, eh bien, fait partie de la vie du véritable adorateur. Parce que ce véritable adorateur qui reçoit l'amour de Dieu dans son cœur, veut aimer comme Dieu aime. Et je vous assure que quand on aime comme Dieu aime, les choses sont bien différentes autour de nous. On voit les gens d'une manière complètement différente. Parfois, quand on voit les gens d'une manière un petit peu tordue, c'est parce que notre amour à nous, eh bien, est limité par notre cœur qui est mauvais et tortueux. Mais laissons le Seigneur nous remplir. Laissons le Saint-Esprit nous visiter. Et vous allez voir si vous ne sortez pas de cet endroit où vous priez en disant « Bon, ce frère m'a fait ça, mais je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. » Bien sûr, parce que Dieu, lui, il n'a pas regardé. Alors que les gens le frappaient, le fouettaient, alors que les gens lui crachaient dessus, alors qu'ils lui arrachaient la barbe, alors qu'ils lui ont planté des clous, alors qu'ils l'ont mis au milieu de brigands, lorsqu'il était sur la croix, il l'a regardé, tout le monde, et il a dit « Père, pardonne-leur !» Cela voulait dire quoi ? « Père, je les aime quand même. Mon amour est intact pour eux. Et ma vie, c'est pour eux. Alors pardonne-les. En réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnons un peu plus souvent nos frères et sœurs, parce que souvent, ils ne savent pas aussi ce qu'ils font. Peut-être qu'ils sont un peu loin de Dieu aujourd'hui. Peut-être que leur communion est un peu fragilisée par la vie. Eh bien, au lieu de les regarder, de les catégoriser, aidons-les à revenir proche de Dieu. Si nous sommes debout, aidons ceux qui sont partis, ceux qui sont par terre. On va les relever ensemble. Et faisons attention à nous de ne pas chuter. Ça, c'est très important. C'est aussi la raison pour laquelle, pour l'adorateur, et ça, c'est mon deuxième point, le véritable adorateur n'a pas une relation intellectuelle avec Dieu, mais il entretient une relation spirituelle permanente. Et je dis bien permanente, et c'est un mot qu'il faut rester avec lui. Jésus a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Il l'a dit de cette manière-là. Pourtant, la Bible nous enseigne que l'adoration des Juifs n'était pas non plus à la gloire de Dieu, il me semble. À l'époque, Jésus disait, il montrait que les Juifs connaissaient les Écritures. C'est vrai, ils savaient que le Sauveur devait venir d'eux, ils savaient que la parole de Dieu annonçait le Messie qui était là, hein, qui devait venir, et pour autant, lorsque Jésus est arrivé, ils ne l'ont ni adoré, ni même reconnu. Et ils les connaissaient, ils lisaient le Tanakh, ils n'arrêtaient pas avec ça. Alors c'était des érudits, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis. Pour autant, eh bien, ils n'avaient rien compris. L'adoration qu'ils avaient envers Dieu n'était pas la bonne. Et tout simplement, c'était parce qu'ils avaient la connaissance de ces écrits. Le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas personnellement le Dieu des Écritures. C'était ça la problématique. Lire la Bible, même si vous la lisez 3 fois par an, si vous ne connaissez pas Dieu, cela ne sert pas à grand-chose. Moi, j'ai connu des personnes qui ont lu la Bible et ils m'ont dit, c'est un beau livre. Il y a des belles choses, des belles histoires, point. Il n'y a pas le Saint-Esprit, bien entendu. Il reste comme ça, il n'accepte pas Jésus. Mais si nous n'avons pas réellement la connaissance de Jésus dans notre cœur, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit guider, diriger notre vie, que voulez-vous ressortir de la parole de Dieu ? De belles histoires, oui. Des choses cohérentes avec ce que les archéologues trouvent. Ouais, c'est extraordinaire. Mais si vous voulez sortir une profondeur de ces écrits, il faut commencer par avoir une foi profonde en Jésus-Christ et par accepter le fait qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est celui qui doit guider vos pas et vos pensées. Je vous assure qu'il n'y a qu'un seul chemin. Vous le savez, mais il n'y a qu'une seule vision, une seule pensée dans la parole de Dieu. Et elle vous est donnée, expliquée par le Saint-Esprit. Sinon, à quoi nous sert-il ? Beaucoup de choses, mais celle-là aussi. Oui, les Juifs avaient entendu parler de Dieu, ils connaissaient mieux que nous peut-être les miracles que Dieu avait faits, même à l'époque, c'était quand même le peuple juif, mais pour autant, ils ne connaissaient pas Dieu. Leur adoration et les cultes qu'ils rendaient à Dieu à l'époque de Jésus étaient une connaissance intellectuelle, une connaissance qui était simplement liée à l'intelligence de l'homme. Et Dieu ne régnait pas de la bonne façon dans leur cœur. Et de nos jours, nous voyons un petit peu la même chose arriver dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Beaucoup sont ceux qui se contentent d'une relation superficielle avec Dieu. Beaucoup sont les chrétiens qui veulent se baser, ou plutôt baser leur vie, une vie qu'ils disent être spirituelle, ils la basent sur quelque chose d'intellect, au lieu de tout simplement laisser la présence de Dieu envahir leur cœur et diriger chacune de leurs pensées. Au lieu de laisser le Saint-Esprit toucher de manière profonde leur cœur, au lieu de veiller à connaître véritablement Jésus par l'Esprit. Mes frères et sœurs, je vous assure que la vraie connaissance de Dieu, elle se trouve uniquement dans la parole de Dieu. Mais elle est révélée dans nos cœurs par l'action de l'Esprit, pas par notre propre intelligence. Oui, nous sommes intelligents, je l'avoue, on fait des choses incroyables. Mais pas suffisamment pour comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est impossible. L'apôtre Paul, d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire. Il réconforte ce que je vous dis dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2. Il dit, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et il le rajoute, il le précise, pour que ce soit bien clair pour nous, même si on a tendance parfois à l'oublier. Et il explique que Dieu nous révèle tout par l'Esprit. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Notre intelligence n'en est pas capable. Alors, oui, nous sommes intelligents, mais pas assez. Pas assez pour comprendre la profondeur de la parole de Dieu si le Saint-Esprit ne nous le révèle pas. Voilà pourquoi Jésus commence par dire qu'il faut l'adorer en esprit avant de dire qu'il faut l'adorer en vérité. Il aurait pu dire le contraire. Non, il commence bien par dire qu'il faut l'adorer en esprit avant de l'adorer en vérité. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas connaître la vérité ni même l'appliquer correctement dans notre vie. Ça, c'est important. C'est peut-être pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne prennent plus le temps de rechercher Dieu, ils ne prennent plus le temps de se laisser guider par le Saint-Esprit, et nous voyons que dans leur vie et autour d'eux, il y a beaucoup de dérives. Le monde évangélique est quand même en train de dériver, il faut quand même le voir. Moi, je vois des choses parfois qui sont très difficiles à vivre. Et pour autant, lorsqu'on parle et lorsqu'on essaye de comprendre pourquoi certains chrétiens ou pasteurs arrivent à en arriver là, eh bien, en réalité, ils pensent être dans une vérité qui est la leur, en s'écartant un petit peu de ce seul chemin que Jésus nous a montré. Oui, aujourd'hui, la porte est ouverte et tout est bien. On peut tout faire. Ça vous plaît ? Alors faites. Non, c'est faux. C'est faux. Je parlais tout à l'heure en arrivant avec quelqu'un et je disais, Nous ne sommes pas appelés à faire ce que nous voulons faire. Nous sommes appelés à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Nous ne sommes pas appelés à penser comme nous voulons penser. Mais nous sommes appelés à penser comme Dieu nous demande de le faire. En fait, nous devons aller où Dieu nous dit d'aller. Nous devons penser comme Dieu nous demande de penser et nous devons parler comme Dieu nous demande de le faire. Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas, nous, être dans la vérité. Mais l'Esprit de Dieu qui vit en nous, s'il nous guide, et d'où l'importance, et l'apôtre Paul qui dit, mais soyez-en remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et constamment, persévérez dans cela. Pourquoi ? Pour que ce Saint-Esprit-là puisse vous guider dans toute la vérité, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, telle qu'elle a été donnée, pas telle qu'on voudrait la voir. Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup de mouvements, d'églises, de chrétiens veulent voir un évangile selon leur manière. Mais il faut faire attention parce qu'en faisant ça, on transforme Dieu à notre manière. Et Dieu est Dieu. Nous ne pouvons pas dire qui il est. C'est-à-dire, ce n'est pas à nous de l'enfermer dans une case qui nous correspond. Non. Dieu nous appelle à venir avec lui dans son royaume. Et en tant que roi, il y a des règles. Et nous devons, nous, simplement les suivre. Et ça, c'est ce que nous devons faire de tout notre cœur. Si nous connaissons Dieu partiellement, parce que nous ôtons de notre vie la relation, on va dire, spirituelle que nous devons entretenir avec lui, alors forcément, je vous assure que la vision de sa parole et de sa volonté sera tournée vers ce que l'on pense être la vérité. Mais elle ne sera pas la vérité. Parce que cette vérité-là, lorsqu'on abandonne la communion avec Dieu, est largement influencée par notre intelligence, par notre culture même, par nos envies. Et ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Si nous essayons d'interpréter la parole, mes frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, alors nous allons forcément voir, et c'est ce que nous voyons, de nouvelles doctrines apparaître régulièrement dans le cœur des hommes et des femmes de ce monde. Et nous aurons une manière de vivre l'évangile qui ne sera que le reflet, écoutez bien, de notre manque de communion et notre manque de connaissance de la vérité elle-même. D'où l'importance de la communion. Connaître Dieu, c'est bien. Je dis souvent, quand vous avez, pour ceux qui sont mariés, rencontré votre époux, votre épouse, dites-moi, vous aviez envie de passer toujours du temps, hein ? Lorsque vous n'étiez pas avec elle, pour ceux qui ont connu les téléphones portables, on téléphonait. Moi, je me rappelle, on dormait au téléphone. On téléphonait au point de s'endormir. Vous comprenez ? J'avais ce besoin, par amour, de passer du temps avec celle que j'aimais. Mais dites-moi, si nous aimons Dieu véritablement, ne devrions-nous pas agir de la même manière ? Ne devrions-nous pas constamment avoir ce besoin de parler avec lui, d'entendre sa voix, d'écouter ce qu'il nous dit ? Ça, c'est l'amour de Dieu. Et lorsqu'on en arrive là, alors on est un véritable adorateur. C'est cet amour qui s'exprime. Et en fait, on ne passe pas du temps parce qu'on nous demande de le passer. On ne vient pas à la réunion de prière en disant « Ouais, j'ai prié une heure aujourd'hui avec les frères et sœurs ». Non ! On continue même quand on rentre, parce qu'on a ce désir de dire « Seigneur, ça y est, je suis rentré chez moi, je vais me mettre dans ma chambre, je vais parler avec toi, mon Dieu, ah, tu vas me bénir. » C'est une grâce que nous avons. Mes frères et sœurs, nous parlons avec Dieu. Et Dieu nous répond. J'ai l'impression parfois qu'on l'oublie. On attend que les pasteurs passent des heures et des heures dans leur chambre à prier, mais on oublie que les chrétiens doivent faire exactement la même chose. Le véritable adorateur n'est pas donné, où Jésus n'en parle pas que pour les pasteurs, hein. Il en parle pour ses enfants, les enfants de Dieu. Il a dit le Père. Et nous devrions le prendre en compte. Ce n'est pas le pasteur qui doit se consacrer, c'est le chrétien qui se consacre. Et un pasteur ne devrait pas avoir plus de consécration qu'un chrétien, ou un chrétien plus qu'un pasteur. Un pasteur est aussi un chrétien. Et parce qu'il aime Dieu, eh bien il se consacre. Je n'ai pas attendu d'être derrière un pupitre pour prier. Je n'ai pas attendu d'être derrière un pupitre pour lire la parole de Dieu régulièrement. Non, parce que j'aimais Dieu. Parce que Dieu était ma priorité. Mon seul désir était de prier, de passer du temps avec lui. Mon seul désir était de lire sa parole pour le connaître toujours un peu plus. Et ça, c'est nous tous, mes frères et sœurs. Et mon Dieu, comme il se doit, honorons-le aussi comme il se doit. Alors, c'est important. Oui, la manière, d'adorer Dieu n'a pas d'importance. Dans votre chambre, dans votre voiture, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Adorez-le où vous le pouvez. Mais attention quand même, parce que je ne veux pas que les choses soient détournées. Aujourd'hui, on détourne beaucoup certaines choses. Ce n'est pas parce que l'endroit où on adore Dieu n'a pas d'importance que cela veut dire qu'on peut adorer Dieu de n'importe quelle manière. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les chrétiens sont encouragés à adorer Dieu de n'importe quelle manière. Cela te plaît ? Vas-y. Mais ce n'est pas comme ça. Il est quand même très important de veiller à ce que l'attitude de l'adorateur soit compatible avec le sérieux et le respect que notre Dieu mérite. C'est important, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul, il va dire dans sa lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 28, et il est important ce texte, « Attachons-nous à la grâce, déjà rien que ces mots-là, ils sont, hein, qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. » Vous entendez ces paroles-là ? Il ne dit pas « Faites n'importe quoi dans l'église. Sifflez, sautez, criez. » Non. Il dit « Adorez Dieu avec respect, ou plutôt ce respect et cette piété qu'il mérite. » Et ça, c'est quelque chose, mes frères et sœurs, et je suis triste de le voir, qui se perd de nos jours, et je dirais même qui séduit de plus en plus de monde. Combien de fois j'ai été choqué de voir ce que nous laissons faire, ou plutôt ce que certains encouragent à faire dans les églises. Certains apprennent à adorer Dieu en adoptant des manières du monde. Il y a aujourd'hui des manières d'administrer les réunions qui ont tendance, eh bien, à remplir l'église du Seigneur d'une ambiance charnelle plutôt que d'une véritable atmosphère spirituelle. Et on s'étonne qu'il n'y ait plus de dons. On s'étonne qu'il n'y ait plus toutes ces choses-là, les parler en langue. Ben, pasteur, je n'arrive pas à recevoir, je n'arrive pas. Mais quelle est notre manière aujourd'hui d'adorer Dieu ? Ce n'est pas le cas ici, et je l'ai bien vu ce matin. Mais quand même, faisons attention. Combien de fois l'apôtre Paul a dit « Soyez vigilants, parce que sinon, vous qui êtes debout, vous pourriez tomber. Ne croyez pas ou ne croyons pas que cela n'arrive qu'aux autres. » Et vous savez, dans mes prières, je dis souvent « Seigneur, ne permets pas que je change ma manière de penser. Ne permets pas, Seigneur, que je dérive parce que certains viendraient en masse me dire « Oui, mais c'est comme ça maintenant. » Non, Seigneur, laisse-moi dans ton chemin. Fais en sorte que je reste ferme et fidèle dans tes voies. Peu importe si elles ne me plaisent pas à moi, ce qui est important, c'est que j'accomplisse ce qui te plaît à toi, Seigneur. Et je vous assure qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais depuis plusieurs années, ma prière est la suivante. Et nous devrions avoir cette prière pour tous. Vous savez, le fait que tous sont en train de déborder est peut-être lié à un autre détail que Jésus donne à la Samaritaine. Un détail qui permet de comprendre un peu mieux pourquoi aujourd'hui l'état des chrétiens modernes se dégrade. Il va dire, le Seigneur, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Vous savez, le Seigneur aurait tout simplement pu dire que les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais je remarque qu'il va quand même rajouter un mot, les vrais adorateurs. Tout est important dans la parole de Dieu, hein, c'est ce qu'on m'a appris. Je le crois, Dieu me l'a dit. Et il aurait pu simplement se contenter de dire les adorateurs. Non, il dit les vrais adorateurs. Il souligne le fait qu'il y a des vrais adorateurs, ce qui sous-entend aussi qu'il y en a des faux. Il y a des faux adorateurs dans les églises, des hommes ou des femmes qui viennent, peut-être même à toutes les réunions, des gens qui lèvent leur voix pour prier, mais qui ont pourtant le cœur vide de la connaissance et de la présence de Dieu. Des personnes charnelles qui vont chercher à ressentir des émotions. Pourquoi ? Parce qu'elles n'arrivent pas à ressentir la présence de Dieu par l'Esprit. Alors elles se contentent d'émotions. Aujourd'hui, le monde évangélique tourne vers un monde émotionnel. Et je suis triste de le constater. Mais on veut ramener du monde. Vous savez ce que je dis à l'église ? Je n'ai peut-être pas la bonne... Je ne suis pas parfait, mais je leur dis, moi, je préfère avoir une église de 10 personnes. Mais une église qui adore véritablement Dieu et qui marche selon sa parole, plutôt qu'avoir une église de 1000 personnes et que ce soit du débordement. Un jour, je rendrai des comptes à Dieu. Un jour, on rendra tous des comptes à Dieu. Et il ne faut pas se tromper, hein, quand on arrivera devant Dieu. Il faut qu'on puisse y arriver avec quelque chose de vrai, disant « Seigneur, tu vois, eh bien j'ai persévéré. » L'apôtre Paul, il dit « Moi, j'ai persévéré, j'ai combattu, je suis arrivé au bout, mais j'y suis arrivé. C'était dur, mais j'y suis arrivé parce que ton esprit m'a aidé, parce que ta parole m'a aidé, mais je n'ai jamais lâché. » Ah oui, on a essayé de me tuer, de me lapider, on a essayé de m'éliminer. Parce que ce que je disais ne plaisait pas, mais j'ai continué à marcher dans cette droiture. Et nous, mes frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire aussi. Peu importe ce que les gens pensent, ce qui importe aujourd'hui, c'est ce que nous voulons que Dieu pense lorsqu'il nous voit marcher. Moi, j'ai envie d'être un parfum doux et agréable à Dieu. Et je pense que vous en avez envie aussi, mais je le crois. Et c'est important de se rappeler de ça. C'est important, oui, c'est vrai, c'est dur parfois, mais c'est tellement important. Il y a des personnes qui, en dehors de l'Église, arrivent à vivre parfois une vie qui est complètement opposée à celle de la parole de Dieu. Et j'en ai connu, j'en connais encore aujourd'hui. Mais Paul a dit quelque chose d'important à Timothée. C'est étrange, j'en ai parlé encore ce matin en arrivant. Il a dit, dans sa deuxième lettre au chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et je crois, mes frères et sœurs, qu'on est rentrés dans ces temps difficiles. Et regardez ce qu'il dit. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. » Et là, regardez ce qu'il dit. « Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. » C'est terrible. Mais Paul avertit Timothée, et il dit ça, il faut que tu le prêches, il faut faire attention, ne laisse personne en arriver à ce point-là, avertis, crie à plein gosier, comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, mais crie-le, pour éviter que mon Église, eh bien, ne tombe. Et je vous assure, mes frères et sœurs, que ces faux adorateurs, ces chrétiens d'apparence, sont encore bien présents dans les Églises, et il est important de savoir les discerner, pour deux raisons au moins. La première, parce que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que dans notre cœur règne l'amour de Christ et nous voulons les aider, eux, à être sauvés, les ramener à la vérité. Si nous les discernons, nous pouvons les aider. Si nous ne les discernons pas, nous n'y arriverons pas. Mais la deuxième, c'est aussi pour éviter de tomber dans un de leurs pièges et de se laisser entraîner avec une pensée qui ne serait pas la bonne. Et encore une fois, qui donne le discernement aux chrétiens ? Le Saint-Esprit. La raison pour laquelle Paul dit « Mais lorsque vous marchez, marchez rempli de l'Esprit. » Pas lorsque vous venez à l'église, que vous asseyez sur une chaise, eh bien essayez de faire en sorte que l'Esprit remplisse votre vie. Non, c'est chaque jour, à chaque minute de votre vie, soyez rempli, soyez constamment rempli du Saint-Esprit. Oui, il vit en nous. Mais combien de fois le Saint-Esprit nous a parlé et nous avons daigné l'écouter parce que cela ne nous convenait pas. Ça nous est arrivé des fois. Hein. Après, on a regretté, attention, hein. Mais des fois de dire « Ah oui, non, mais moi je veux pas, je veux rester quand même sur cette lancée-là. » D'ailleurs, je remarque une chose, lorsqu'il y a une dispute, lorsqu'il y a une confrontation, quelque chose de très émotionnel qui vient un petit peu des profondeurs qui restent au fond de notre cœur là, eh bien, la première chose qu'on ne veut pas faire, c'est aller prier. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on se dit « Si je vais prier, Dieu va me reprendre, je vais devoir pardonner. » Alors, on boude Dieu. Et certains ne viennent pas à l'église même, on boude Dieu. Voilà, comme ça au moins il me laisse tranquille. Moi, mais... Si Dieu essaye de vous reprendre, s'il essaye de me reprendre, c'est pour notre bien. Parce qu'il veut passer l'éternité à nos côtés. Et je crois que nous voulons aussi passer l'éternité à leur côté. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à être des sentinelles et ce n'est pas pour rien qu'il nous demande d'être ces sentinelles-là. Nous devons veiller les uns sur les autres, je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons faire en sorte qu'aucun d'entre nous ne se trompe de chemin. Mais nous devons aussi veiller sur notre propre santé spirituelle. Et comment faire ? En passant du temps avec Dieu dans la prière, en lisant les Écritures, en vérifiant que ce qui nous est dit est bien écrit. Et les chrétiens de Béret, ils ne sont pas là pour rien. L'exemple est important. Oui, le pasteur a prêché, mais je note et je vérifie. Je vérifie. Écoutez, les chrétiens de Béret, ils vérifiaient ce que Paul et Silas disaient. Je crois que Franck, ce n'est pas Paul. Donc, marquez et vérifiez chez vous si les textes ne correspondent pas. Mais je crois que c'est important de le faire. Et puis ça vous permettra de passer plus de temps encore avec Dieu. Je vous assure, mes frères et sœurs, que si nous feuillons sur cela, Alors, de cette façon, Dieu va venir nous consoler. Dieu sera en mesure véritablement de nous fortifier. Dieu pourra vraiment nous donner la bonne vision et nous aider à ne pas nous égarer de ce chemin qui mène à la vie éternelle. Ce qui m'amène à vous dire que, et je finirai avec ça, le véritable adorateur est un homme ou une femme qui passe du temps avec Dieu dans la prière. Oui. Et le problème, vous savez, c'est que de nos jours, eh bien, nous n'avons plus le temps. Nos vies sont accaparées par nos affaires dans le monde, il y a tellement de choses à faire, et nous donnons à cause de cela de moins en moins de temps à notre relation personnelle avec notre Dieu par la prière. Regardez, lorsque nous étions jeunes convertis, on appelle ça le premier amour, qui aurait jamais dû disparaître de nos cœurs, mais voilà. Combien de temps est-ce que nous passions avec Dieu à l'époque ? Et combien de temps aujourd'hui ? C'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas parce qu'on connaît Dieu aujourd'hui qu'on est assuré de notre salut que ça veut dire qu'il ne faut plus passer de temps avec lui. Au contraire, c'est là où on devrait, je l'expliquais tout à l'heure, avoir envie d'en passer encore plus, ne serait-ce que pour le remercier. Nous devons faire attention parce que le monde, lui, se sert de notre manque de temps, ou plutôt la pensée du monde, se sert de notre manque de temps pour venir nous piéger. Et je vous assure que c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, nous voyons fleurir des églises 2.0, des choses modernisées, avec des pasteurs modernisés. Il faut voir ce qu'on voit. On y trouve de tout aujourd'hui dans le côté évangélique. Moi, j'ai vu des choses incroyables. Pourtant, les écrits sont clairs. Hein. On y arrive quand même. On essaye toujours de détourner avec des faux raisonnements ce que Dieu a pourtant demandé. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. Si nous ne passons pas du temps avec Dieu, alors nous ne serons pas en mesure de tenir bon face à toutes ces pensées qui vont venir taper jour après jour sur notre cœur. Nous devons faire attention. Les églises aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font ? Les églises modernes, elles balayent les temps de prédication. Elles les balayent. J'ai connu des églises qu'on connaît où aujourd'hui la prédication ne doit pas dépasser un quart d'heure. Après cela, on vous demande d'arrêter. Par contre, pour les chants, pas de problème. On peut y passer une heure. Voyez, c'est difficile de pouvoir ou Dieu de parler à son peuple si on coupe la parole. Ah, ne lisez pas plus d'un verset par jour. C'est un petit peu ce qu'on vous demanderait, quoi. Vous voyez un petit peu ? Mais non, lisez la Bible. Déjà, ne lisez jamais qu'un verset. C'est un conseil. Si vous voulez lire un verset, lisez au moins le chapitre. Ça vous permettra au moins d'avoir le contexte aussi, c'est important. Mais bon, nous devons faire attention. Parce que les églises 2.0, elles fleurissent aujourd'hui et elles entraînent beaucoup, beaucoup de personnes. Mes frères et sœurs, la prière est pour le chrétien ce que l'eau représente à l'être humain. Sans eau, nous finissons par mourir. Et la prière, eh bien, sans elle, le chrétien finit aussi par mourir. La prière, c'est une relation vivante, c'est une communion de vie avec Dieu. Mais c'est aussi une arme puissante que l'ennemi de nos âmes veut absolument briser dans notre vie, je vous l'assure. Un chrétien qui ne prie pas n'est pas un danger pour le diable. Oui, c'est vrai, je vous assure. Un chrétien qui délaisse la communion avec Dieu, eh bien, devient de plus en plus fragile vis-à-vis de l'ennemi de nos âmes. Et tout cela est lisible. On crée des brèches, il s'infiltre et il dérobe. Il dérobe quoi ? Ce merveilleux trésor que Dieu a placé dans votre cœur. Parce qu'il en a placé un inestimable. Et le diable a beaucoup de jalousie par rapport à ça. Il ne veut pas que vous l'ayez non plus. Il voudra tout faire pour l'enlever, l'ôter de votre vie. Et nous devons faire attention. Le vrai adorateur, mes frères et sœurs, il aime passer du temps à la prière. Pas seulement lorsqu'il y a du monde autour de lui, comme le faisaient à l'époque les pharisiens hypocrites, mais il aime passer du temps seul avec Dieu. Le chrétien, c'est quoi ? Ou plutôt le vrai adorateur, c'est « Chérie, je rentre dans ma chambre, je vais prier. » Très bien. À quelle heure tu sors ? J'en sais rien. Ça, c'est l'adorateur, le véritable. On sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on en sort. Peu importe ce qui est prévu après, ça attendra. Ce qui importe, c'est d'avoir un moment où Dieu est la priorité dans notre vie. Pas le reste. Mes frères et sœurs, nous prêchons Christ au centre. Et aujourd'hui, beaucoup de monde veut Christ autour de notre vie. Mais Christ autour de notre vie n'est pas bon. C'est dangereux. Christ doit être au centre. Ensuite, vous aurez le temps de faire des choses. Je vous assure que vous aurez le temps d'aller vous promener, vous aurez le temps. Mais Christ doit toujours être votre priorité. Et les vrais adorateurs, c'est cela. Ils font de leur Dieu leur priorité. En fait, ils accomplissent tout simplement le plus grand des commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça, c'est important. Mais ça, c'est le vrai adorateur. Le vrai adorateur, il aime les moments intimes avec Dieu. Il aime passer du temps avec lui. Il se dit qu'une heure avec Dieu vaut mieux que mille ailleurs. Mais pas qu'avec la bouche. Le vrai adorateur, il le montre. Il est présent. Il œuvre pour le Seigneur. Alors, oui, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le temps manque. L'essentiel est dit. Nous devons l'adorer en esprit, mais aussi en vérité. Et si nous ne commençons pas par croire en lui, alors le Saint-Esprit et avoir cette vraie relation, le Saint-Esprit ne pourra pas nous montrer vraiment où est la vérité. Et nous finirons par nous laisser emporter par les flots de ce monde qui sont aujourd'hui, je le crois, déchaînés. Ils veulent engloutir l'embarcation qui pourrait représenter notre cœur, ils veulent l'engloutir. Mais attention, nous avons le Seigneur Jésus avec nous. Et le vrai adorateur, c'est aussi celui qui sait le réveiller lorsqu'il dort dans sa barque. Alors si ce matin, Dieu dort dans ton cœur, eh bien je t'invite à le réveiller. Et s'il est déjà réveillé, je t'invite à parler avec lui encore plus. Parce que Dieu n'attend qu'une chose, c'est de dialoguer avec nous, de nous enseigner, de nous guider, mais aussi de faire du bien dans notre vie. Quand on prie, Dieu nous restaure, Dieu nous bénit, Dieu nous parle, Dieu nous console. Eh bien, passons du temps avec lui pour être constamment consolés et bénis. Amen. On remercie le Seigneur.